Deuxième partie. La vie est un songe, dit-on. 24 juin, 26 juin 2021. Le moment où. Jeudi 24 juin 2021. Maguire Air Force Base, Trenton, New Jersey. En file indienne, entre deux colonnes de soldats armés et équipés de combinaisons jaunes anti-contamination, les passagers cheminent vers le hangar. Ils traversent un portique de test de radioactivité, un sas antibactérien, et pénètrent sous l'immense dôme au compte-gouttes. Une rangée de soldats note leur nom, leur prénom, leur numéro de siège. Rares sont ceux qui protestent. À l'énervement, puis la colère, ont succédé l'épuisement et l'anxiété. Seule une avocate excédée trouve l'énergie de distribuer sa carte professionnelle. Dans le hangar, les militaires ont branché des douches, des toilettes mobiles, dressé une centaine de tentes, de longues tables. Ils servent des repas chauds. Certains passagers tentent de se reposer sur les matelas installés sous les toiles, mais tout résonne sous la voûte d'acier. Les enfants crient, des disputes éclatent. Des dizaines de soldats patrouillent, filtrent chaque allée et venue. Dans l'angle nord, une équipe médicale dispose d'un laboratoire sous un chapiteau stérile et une douzaine d'infirmiers prélèvent un échantillon de la salive de chaque passager. Dans les modulaires de chantier de l'angle est, les psychologues de PsyHop qui affluent débutent les interrogatoires en face à face en suivant le questionnaire que Miller et Wang ont élaboré dans l'urgence. Au cours des dernières heures, le protocole 42 s'est beaucoup enrichi. Côté ouest, 5 mètres au-dessus du sol, une vaste plateforme métallique domine le hangar. L'équipe de la Task Force s'est déplacée dans l'une des salles en surplomb et chacun peut observer, de la baie vitrée, cette fourmilière bruyante et chaotique. Les tablettes affichent sans cesse de nouvelles données. La NSA a géolocalisé la plupart des passagers et les membres d'équipage du vol Paris-New York du 10 mars. Une centaine est déjà assignée à résidence sous surveillance policière. Les biologistes comparent leur ADN avec celui de leurs homologues retenus dans le hangar. Ils sont strictement identiques. L'avion immobilisé à Maguire est l'exacte réplique de celui qui s'est posé voici un peu moins de 4 mois. Mitnick, le geek de la NSA, projette sur un écran une image de la cabine dédoublée. Voici, côte à côte, les vidéos de la caméra située en première classe. À gauche, l'image du premier avion, le 10 mars. À droite, celle de celui qui s'est posé ce jour. Pause. Sur les deux timecodes, sur les images, il est 16h26 et 30 secondes. Les deux images sont semblables. Nous sommes en plein milieu des turbulences. Et maintenant, image par image. Sur l'écran, à 16h26min 34s 20 centièmes, les vidéos divergent et l'écran divisé devient un jeu des 7 erreurs. À gauche, une passagère voit ses lunettes s'envoler, tandis qu'à droite, elle les garde sur son nez. Ici, un coffre à bagages s'ouvre, alors que là, il reste fermé. Et surtout, il fait sombre à gauche, tandis que dans la vidéo de droite, un soleil radieux illumine la cabine. Le premier avion poursuit sa route agitée dans le terrible orage du 10 mars. Quand le second a jailli dans le ciel calme du 24 juin à 18h07. La cacophonie est telle que Mitnick doit crier pour se faire entendre. « Voilà !» jubile-t-il d'une voix surexcitée. « Tout se passe à ce moment-là, à 16h26min 34s 20 centièmes. » Et l'invraisemblable continue. Nous avons sélectionné 3 caméras intérieures sur le Boeing 787. Une à l'avant, une au centre, une à l'arrière. Entre chacune, il y a 12 mètres. À 900 km à l'heure, soit 270 mètres par seconde, le Boeing parcourt ses 12 mètres en 1/25e de seconde. Et miracle, ses caméras prennent 25 images par seconde. Vous me suivez? N'obtenant pas de réponse, Mitnick poursuit. Je divise l'écran en 3. À gauche, la vidéo de la première caméra. Au centre, la vidéo de la deuxième. À droite, la dernière. Donc, à 16h26min 34s 20 centièmes, le soleil inonde la cabine d'un coup pour la première caméra. Le même phénomène se produit sur la deuxième caméra, mais à l'image suivante, à 16h26min 34s 24 centièmes. Et sur la troisième caméra, vidéo de droite, le soleil est là à 34 secondes et 28 centièmes. Et, ça veut dire ? Demande Silveria. Mitnick triomphe. Il y a un décalage d'un 25e de seconde entre chaque caméra. C'est comme si notre deuxième avion surgissait de nulle part à travers un plan vertical immobile. Avant le plan, la tempête, après l'avoir franchi, le ciel bleu. Selon nos satellites d'observation, ce plan se trouvait le 10 mars précisément à 42 degrés 8 minutes 50 secondes nord, 65 degrés 25 minutes 9 secondes ouest. Mais l'avion est réapparu aujourd'hui un peu plus au sud-ouest, il y a environ 60 kilomètres entre les deux. Vous en concluez quoi, Mitnick ?
Oh, moi, rien, rien du tout. C'est une donnée de plus à mouliner pour les grosses têtes de Princeton, dit-il en se tournant vers les deux mathématiciens.
Ça a fonctionné un peu comme une photocopie, quoi. Un scan à un endroit, une impression ailleurs, comme une feuille qui sort d'une machine ?
Demande Tina Wang.
Mitnick hésite. L'idée lui avait paru trop absurde pour qu'il la suggère. Le silence revient. Les climatiseurs ne sont pas encore installés et il règne une chaleur moite. Un message fait vibrer le portable de l'homme de la sécurité nationale qui lit et soupire.
Le président des États-Unis exige que la NSA vérifie s'il n'y aurait pas eu le 10 mars près de nos côtes atlantiques un navire russe ou chinois qui aurait fait une expérimentation de voyage dans le temps.
Un abattement agacé saisit le général Silveria. Il appuie sa tête contre la vitre, regarde le hangar pris dans une lumière crue.
« Mais d'où sort cet avion ?» soupire Silveria.
« Vous avez forcément une théorie, professeur Wang. Un professeur sans théorie, c'est comme un chien sans puce. »«
Désolé, pour l'instant, je n'ai aucune puce. »«
Nous espérons retrouver tout le monde dans les 48 heures, » reprend Silveria, « y compris les passagers d'origine étrangère qui sont retournés dans leur pays depuis le 10 mars. » D'ici là, dégotez-nous une explication.
Il faut enrichir l'équipe scientifique, suggère Adrien. Physique quantique, astrophysique, biologie moléculaire. L'équipe doit être sur place à l'aube.
Dans 30 minutes, poursuit Tina Wang, nous vous donnons une liste de scientifiques, deux ou trois philosophes aussi.
Ah, pourquoi ? Demande Silveria.
Et pourquoi les scientifiques seraient-ils toujours les seuls à être réveillés la nuit ?
Silveria hausse les épaules.
Ne reculez sur aucun nom. J'ai toute autorité pour kidnapper chaque prix Nobel présent sur le territoire. La formule exacte est « lui demander de coopérer à la demande expresse du président des États-Unis ». Trouvez-nous aussi une salle d'hypothèse, une très grande salle de travail collectif avec beaucoup d'espaces différents. Plusieurs tables, des fauteuils, des canapés, des tables noires, de la craie, enfin, vous voyez. Les tableaux seront blancs et interactifs, ça vous ira ? Dit Silveria sans la moindre ironie dans la voix. Et aussi des drogues contre le sommeil.
On vous gavera de modafinil, nous en avons des centaines de boîtes.
Il nous faudrait une spécialiste des questions de continuité dans l'espace, de théorie des graphes, hasarde Adrien.
Pourquoi une ?
Vous avez quelqu'un en tête ?
Adrien a quelqu'un en tête.
Le professeur Harper à Princeton.
Meredith Harper.
Il y a quelques heures, nous discutions justement des topoi de Grothendieck en géométrie.
J'envoie tout de suite un véhicule militaire la chercher.
Elle est fiable ?
En matière de sécurité nationale ?
Absolument. D'autant qu'elle est anglaise. C'est un problème ?
Le général Silveria est dubitatif.
Il y a 13 Anglais dans ce fichu avion, de toute façon.
Tant qu'elle n'est pas russe, chinoise ou française. Et de toute façon, nous allons collaborer avec les services britanniques.
Et une machine à café, une vraie, qui fasse des expressos, ajoute Adrian Miller.
Ne demandez pas l'impossible, grimace général.
Peu avant 23 heures, dans l'angle nord du hangar s'élève un tourbillon de fumée grise, simple volute d'abord, mais qui vire au noir et se densifie. Une voix d'homme crie au feu, et une onde de panique se propage dans la foule. Des passagers s'élancent vers les portes fermées, bousculent les militaires qui les gardent, des équipes de sécurité affluent pour leur venir en aide. L'incendie est vite maîtrisé. Mais Silveria saisit un micro.
Je suis le général Patrick Silveria, je vous prie de ne pas céder à la panique. Je vais descendre vous donner les explications que vous méritez.
Un brouhaha monte de la salle.
Qu'allez-vous bien raconter à ces gens ? Demande Tina Wang alors que l'officier s'apprête à descendre de la plateforme. Je vous conseille de ne pas leur dire qu'ils existent tous déjà en double quelque part et qu'ils n'ont rien à fiche sur Terre. Je vais improviser. Qui sait de toute façon ce que nous faisons tous sur cette foutue planète ?
Pendant que Silveria, au micro, devant 200 passagers, se lance dans des explications mensongères, où il est question de sécurité nationale, de piratage, de santé publique, les militaires examinent les dégâts. Le feu a pris sous un lit de repos et s'est aussitôt propagé à toute la tente. Un acte volontaire. À 30 mètres de là, une porte de métal étroite donnant sur l'extérieur a été forcée avec un pied de biche. Lors du mouvement d'affolement, les soldats qui la gardaient ont relâché leur surveillance. 10 minutes encore et l'on découvre que le grillage qui enclôt la base a été arraché sur 5 mètres, défoncé par un véhicule. Il était de couleur grise, comme l'indiquent les traces de peinture. Mais le parking non loin du hangar et sur lequel il a certainement été volé en accueille plus de 300. Un passager s'est enfui et a disparu dans la nuit. À minuit, la liste de l'équipe multidisciplinaire est constituée. Des prix Nobel, des prix Abel, des médailles Fields, lauréats ou potentiels. Une demi-heure plus tard, le FBI commence à sonner à des portes, interrompant toute activité nocturne, le sommeil restant la plus commune. La demande expresse du président des États-Unis et les gyrophares qui trouent la nuit font leur effet, et il n'est pas 1 heure du matin qu'un balai de voitures, d'hélicoptères et de jets achemine les scientifiques vers la base de McGuire. Mère Alice, elle aussi, est là, reconnaissable à son parfum de vodka et de dentifrice. On l'a visiblement tiré du lit, et quand Adrian se lance dans une présentation, confuse, de la situation, sa colère est retombée depuis longtemps. Elle l'écoute, les sourcils froncés, regarde la foule en bas sans rien dire. Adrian s'étonne. « Vous ne me posez aucune question ? Vous auriez une réponse ?» Adrian secoue la tête, déconcertée, et lui tend un comprimé de modafinil. « Pour ne pas dormir, » veut-il ajouter, mais elle l'a déjà avalé sans protester. « Vous auriez dû me dire que vous étiez agent secret, Adrian. Ce n'est pas exactement ça. Venez, je vous emmène en salle de pilotage. Tut-tut, mathématicien à Princeton. Quelle couverture de dingue pour un espion !»
Lorsqu'Adrian pousse la porte, Meredith reste ébahie devant le décor. « Oh, Adrian, j'adore !» souffle-t-elle. « On est dans Docteur Folamour. » Sur les écrans, chaque nouvelle donnée confirme l'impossible. L'avion sur la piste est en tout point identique à ce 787 qui s'est posé le 10 mars. Certes, l'appareil a été réparé. Certes, les passagers ont vieilli. On fête le soir même à Chicago les 6 mois d'un bébé qui, dans le hangar, est un nouveau-né hurleur de 2 mois. Dans ces 106 jours qui séparent les 2 atterrissages, parmi les 230 passagers et 13 membres d'équipage, une femme a accouché et 2 hommes sont décédés. Mais génétiquement, ce sont les mêmes individus. Silveria fait le bilan en comité restreint et ne prête aucune attention aux mathématiciens. Les interrogatoires ?
Nous enrichissons le questionnaire élaboré par les professeurs Wang et Miller, répond Jamie Pudlowski, la femme des opérations psychologiques. Nous y introduisons des détails erronés pour susciter des réactions qui valideront les identités. Pour commencer, les noms des passagers doivent rester secrets. L'homme de la NSA agite de nouveau sa tablette. Nous monitorons les réseaux sociaux avec des alertes sur les mots-clés de Boeing à McGuire. Quand la crise explosera, nous pourrons identifier les émetteurs et limiter la diffusion des informations. Mais on n'est pas en Chine ou en Iran. Nous ne pouvons pas bloquer Internet. Pour l'instant, une seule page, celle d'un soldat de la base, mentionne cet avion et nous l'avons effacé, Dieu merci.
Puisqu'on parle de Dieu, dit Pudlowski, le mot de Dieu a la vertu de créer le silence. La femme du FBI secoue la tête et, dans la lumière, une fine tresse noire traverse l'arrangement de ses cheveux blancs. Eh bien, Dieu risque d'être un problème en soi. Dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres, on parlera d'intervention de Dieu ou du diable. Nous ne pourrons pas enrayer les flambées de superstition, les actes irréfléchis d'illuminés. J'ai pris l'initiative de convoquer un conseil des leaders spirituels de tous les cultes. Les conseillers religieux du président sont tous des évangélistes, on ne doit pas nous reprocher de nous être limités à eux. À bord de cet avion, on compte des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes. Le temps joue contre nous et le religieux est imprévisible de nature.
Vous avez carte blanche, Jamie, dit le général. Avec ses 9 milliards de dollars de budget, votre bureau va bien réussir à accomplir quelque chose.
Et pour les Français, les autres Européens, les Chinois et tous les autres, que fait-on? Demande Mitnick.
On avertit les ambassadeurs?
Pour leur dire que nous détenons illégalement leurs ressortissants?
Nous n'allons rien faire. Nous allons attendre une décision du président.
Autre chose?
Du fond de la salle, Adrian lève le doigt, timidement.
Pour distinguer les gens du premier avion posé en mars et ceux du second, il nous faut un code. 1 et 2. Alpha et bêta?
Des couleurs?
Bleu et vert?
Bleu et rouge?
Tom et Jerry?
Laurel et Hardy, suggère Meredith.
Excellente idée.
Maintenant,
tranche Silveria. Faisons simple. March, pour le premier qui s'est posé en mars. June, pour celui de juin.
Le temps est essentiel, Blake le sait. 15 minutes dans le hangar suffisent pour qu'il exploite une faille dans le dispositif de sécurité, s'échappe, 7 minutes encore pour qu'il roule vers New York dans un vieux pick-up Ford F, le véhicule le plus passe-partout qui soit, emprunté sur le parking de la base. Toujours prendre pour seul bagage un sac à dos. Bien sûr, il n'a pas remis au personnel de bord le portable jetable acheté à Paris. Évidemment, il a évité le contrôle ADN.
Il arrive à New York à 2 heures du matin, jette dans une poubelle le passeport australien du voyage aller, abandonne le pick-up dans une rue sombre, nettoie toute trace sur le volant, le siège, avant de l'incendier malgré tout pour plus de sécurité. C'est une évidente nuit d'été, caniculaire même, et Blake, qui découvre stupéfait sur un journal la date du 24 juin, trouve au moins la température logique. Dans un webcafé 24 heures sur 24 de Manhattan, il parcourt les actualités des derniers mois. Il apprend ainsi qu'à Quogue, le 21 mars, un certain Frank Stone a été assassiné. Quelqu'un a exécuté son contrat. Il veut consulter ses comptes bancaires secrets, mais les codes ont été changés. Il visite la page Facebook de son restaurant parisien, puis celle de Flora. Sur une photo postée le 20 juin, un homme qui lui ressemble, à s'y méprendre, porte sa fille sur ses genoux et un bandage au front, et Flora a légendé « Le poney, ce féroce prédateur ». Il examine son propre front. Aucune cicatrice, aucun hématome. Un instant, comme explication banale et bancale, Blake avait songé à l'amnésie. Ce n'est plus une option. Le pragmatisme l'emporte, comme chaque fois. Il lui faut retrouver ses bases. Il prend un taxi pour JFK, puis achète en cash et sous une nouvelle identité un billet sur le premier vol pour l'Europe. Le New York-Bruxelles décolle à 6h15. À 21h le samedi, il sera de retour sur le sol européen et un bus part toutes les heures pour Paris. Blake a des heures pour dormir et, sinon comprendre, du moins réfléchir.